Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors la semaine dernière, nous avons commencé un grand voyage au pays de Verlaine. Incontestablement, le poète préféré des musiciens, enfin en tout cas celui dont les poèmes ont été le plus mis en musique par les compositeurs comme par les chansonniers. Le problème posé est passionnant. Quelle musique correspond à quel texte? On parle souvent de la musique des mots, d'accord, mais cette musique est-elle liée aux sonorités de la langue, au rythme de la phrase ou aux images suscitées? Et puisque la semaine dernière nous avons évoqué à propos du recueil de Verlaine « Romances sans paroles », les fameuses romances sans paroles pour piano de Mendelssohn, je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce que disait Mendelssohn en 1842 du rapport entre les mots et les notes. Vous allez voir, c'est assez inattendu. Je cite Mendelssohn. « Les gens se plaignent souvent du caractère ambigu de la musique, du fait qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent penser lorsqu'ils l'entendent, alors que les mots, en revanche, seraient compris de tous. Eh bien pour moi, c'est exactement le contraire. Et pas seulement dans le cas des discours complets, mais également avec les mots isolés. Ceci me semble tellement ambigu, tellement vague, tellement sujet à la confusion, comparé à la véritable musique, celle qui emplit l'âme de milliers de choses bien supérieures aux mots. Ce que traduit la musique, ce ne sont point pour moi des idées trop vagues pour être traduites en paroles, mais au contraire, des idées trop précises. » Alors pour tenter de résoudre cette vaste et délicate question, je vous propose de consacrer notre preuve par Z hebdomadaire à quatre éclairantes comparaisons concernant quatre très célèbres poèmes de Verlaine. Et nous allons commencer par « Le ciel est par-dessus le toit ». Vous savez, c'est un poème qui fait partie du recueil « Sagesse » et que Verlaine écrit en 1873 alors qu'il est âgé de 30 ans et qu'il vient d'être condamné à 2 ans de prison et enfermé à Mons en Belgique pour avoir tiré au revolver sur Rimbaud, son époux infernal, comme il disait, lors d'une querelle d'amoureux particulièrement vive et tendue. On imagine bien Verlaine dans sa cellule. Il est triste, évidemment, voire désespéré. Il voit un petit bout du ciel qu'il décrit. Alors je vous propose déjà que nous écoutions ce poème sans musique, simplement lu, lu avec la merveilleuse diction de Robert Hirsch. Robert, nous t'écoutons.
Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit perce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit. Chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse?
Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai le sentiment que Robert Hirsch, dans sa lecture, met en quelque sorte une certaine distance entre lui et le sentiment exprimé par le poème, qu'il conserve un certain recul, qu'il cherche à désigner la détresse de Verlaine, mais sans se substituer à lui. Et maintenant, bien sûr, nous allons écouter la mise en musique de ce très beau poème, la plus connue de toutes les versions étant celle que Fauré écrit en 1896. À noter d'ailleurs qu'il donne un titre à sa mélodie, il l'intitule « Prison », ce qui n'est pas un titre de Verlaine, et ça c'est une pratique très fréquente. Les compositeurs, lorsqu'ils mettent en musique un poème, très souvent lui donnent un titre si le poète n'avait pas donné de titre à son poème, ou alors même ils changent le titre du poète, il faut faire très attention, notamment lorsqu'on fait des recherches à ce sujet. Enfin bref, donc maintenant, « prison, Gabriel Fauré. Et je vous propose cette expérience d'en écouter non pas une, mais deux interprétations enchaînées. La mélodie est tellement belle qu'elle se prête tout à fait à cette petite expérience, à ce petit jeu. Nous allons d'abord écouter une version classique. Je pense à la voix singulière, expressive de la contralto Nathalie Stutzmann. Et tout de suite après, on enchaîne avec une interprétation bien différente, puisque c'est celle de Colette Mani, une grande chanteuse de blues et de chansons des années 60 qui adorait Fauré et qui en propose une version non classique, mais très convaincante, vous allez voir. Donc, Prison de Gabriel Fauré, d'après le poème de Verlaine, Le ciel est par-dessus le toit, interprété tout d'abord par la contralto Nathalie Stutzmann et que nous enchaînons avec l'interprétation de la chanteuse Colette Mani.
Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là. Ô toi que voilà, le rend sans cesse. Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse.
Voilà Voilà, nous venons donc d'écouter enchaîner la mélodie Prison de Gabriel Fauré, une mélodie écrite en 1896 sur le poème de Verlaine, d'abord chantée par la contralto Nathalie Stutzmann, accompagnée au piano par Catherine Collard, puis par la chanteuse Colette Magny dans un genre, vous l'avez entendu, bien différent. Il me semble que ces deux interprétations sont aussi savoureuses, aussi attachantes, aussi belles l'une que l'autre. Alors une trentaine d'années plus tard, en 1928 très exactement, le compositeur britannique Benjamin Britten met lui aussi en musique ce poème de Verlaine. C'est une œuvre de jeunesse, hein. Benjamin Britten n'a que 15 ans, et vous allez voir que son parti pris est totalement différent. Déjà, ça n'est pas écrit pour voix et piano, mais pour voix et orchestre. Et surtout, on a l'impression que Britten décide de laisser s'exalter le sentiment douloureux qui est au centre du poème. Il ne le contient pas. Et ce sentiment finit par déborder allègrement le texte de Verlaine au profit d'une magnifique envolée lyrique qui n'est pas sans rappeler les quatre derniers leaders de Richard Strauss. Nous écoutions « Le ciel est par-dessus le toit », poème de Paul Verlaine, musique de Benjamin Britten, interprété par la soprano Gilles Gomez et l'orchestre symphonique de Birmingham sous la direction de Sir Simon Rattle. Je vous propose maintenant d'en passer à un deuxième poème de Paul Verlaine, « La lune blanche, lui dans les bois ». Alors cette lune blanche, c'est vraiment un cas d'école. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est un des poèmes les plus connus de Verlaine, mais en cette deuxième moitié du 19e siècle, c'est vraiment le tube. Tout le monde connaît ce poème, on l'apprend par cœur à l'école, et un certain nombre de compositeurs classiques le mettent en musique, et quand je dis un certain nombre, je crois qu'il y en a eu plus de 130. J'ai noté Reynaldo Hahn, Fauré, Massenet, Chausson, Max Reger, Stravinsky, enfin bref, je ne vais pas vous dire toute la liste, on en aurait jusqu'à la fin de l'émission. Alors en ce qui concerne le poème, c'est vraiment tout le contraire du poème précédent. Pas de tension, tout va bien, la lune blanche, lui, dans les bois, et sa lumière nous apporte beaucoup de tranquillité, beaucoup de douceur, beaucoup d'apaisement, ce que Verlaine nomme l'heure exquise. Vous voyez, aujourd'hui, on parle des happy hours en fin d'après-midi, eh bien, pour Verlaine, le moment vraiment exquis, le moment privilégié, c'est plutôt au milieu de la nuit, lorsque le monde semble s'être apaisé et qu'il n'y a plus qu'à contempler la lumière de la lune. D'ailleurs, chaque compositeur qui met en musique ce texte doit forcément se poser la question de son rapport à la Lune et même d'une manière plus générale de son rapport à la nature. Est-ce que la nature est le réceptacle de nos sentiments et dans ce cas-là, elle nous renvoie à nous-mêmes ou est-ce qu'au contraire, elle nous délivre de nous-mêmes, elle nous permet de sortir de nous-mêmes? Eh bien, nous allons examiner les solutions musicales successives de trois compositeurs. Évidemment, je ne vais pas enchaîner les 130, mais je vous propose déjà d'en enchaîner trois que j'aime particulièrement. J'ai nommé Reynaldo Hahn, Gabriel Fauré et Massenet. La version de Reynaldo Hahn, c'est un piano-chant qui fait entendre une mélodie délicate et rêveuse, dotée du titre emprunté au dernier vers du poème de Verlaine, « L'heure exquise ». La version de Gabriel Fauré, quant à elle, est plus visuelle. Quand je l'écoute, j'ai l'impression de percevoir, en quelque sorte, la lumière de la lune à travers les bois. Et nous l'entendrons dans l'arrangement pour piano et cordes. Et nous terminerons notre comparaison par la version de Massenet, un magnifique duo qui fait irrésistiblement penser au célèbre duo des Fleurs de l'Acmé.
Oh, Thank you.
Sur un même poème de Paul Verlaine, La Lune Blanche, lui, dans les bois, nous écoutions successivement la mélodie de Reynaldo Hahn, écrite en 1893, ici interprétée par la mezzo-soprano américaine Suzanne Graham, accompagnée au piano par Roger Vignoles, puis la version de Gabriel Fauré, écrite l'année suivante, dans son arrangement pour piano et cordes, interprétée par le baryton américain Sanford Silvan, et enfin la mélodie de Jules Massenet de 1871, Rêvons c'est l'heure, interprétée en duo par Dame Felicity Lott et Anne Murray. Et nous en arrivons maintenant à l'un des poèmes les plus intenses, les plus énigmatiques aussi de Paul Verlaine, Un grand sommeil noir. Un grand sommeil noir tombe sur ma vie, je ne vois plus rien, je perds la mémoire, je suis un berceau qu'une main balance au creux d'un caveau. Alors s'agit-il d'un poème désignant la mort, la tristesse, le deuil, la dépression? En tout cas, vous l'avez compris, ce n'est pas spécialement joyeux. Mais je trouvais bien qu'après la douleur, le ciel est par-dessus le toit, après la magie de la lune blanche, nous allions du côté d'un Verlaine qui dessine les affres de la dépression, de la fatalité, de la mort peut-être, dans ce fameux poème « Un grand sommeil noir » tiré du recueil « Sagesse ». Alors ce poème a été mis en musique par pas mal de compositeurs, parmi lesquels Stravinsky, Vierne, Canteloube, Nadia Boulanger, Varèse, Ravel, Honegger, il y en a d'autres. En tout cas, j'ai choisi de vous en faire entendre successivement trois. La version d'Honegger, écrite en 1944, donc ça c'est juste la fin de la Seconde Guerre mondiale. La version de Stravinsky de 1910 et la version enfin de Nadia Boulanger de 1906. Vous allez entendre que ces trois versions musicales sont tout aussi convaincantes les unes que les autres. Elles sont convaincantes, mais bien sûr différentes, plus inexorables chez Honegger, plus minérales, plus hiératiques chez Stravinsky, il s'agit du premier texte français qu'il met en musique, plus poignantes, plus mystérieuses chez Nadia Boulanger.
Dormir
Nous écoutions trois versions différentes du Grand Sommeil Noir de Paul Verlaine. Tout d'abord, celle d'Arthur Honegger, interprétée par le baryton Jean-François Gardeil, accompagné au piano par Billy Eddy. Puis la version pour voix et orchestre de Stravinsky, interprétée par le baryton Dietrich Fischer-Dieskau et l'orchestre de la radio de Stuttgart sous la direction de Gary Bertini. Enfin, la version de Nadia Boulanger, interprétée par l'excellent baryton basse Edwin Crossley-Mercer, accompagné au piano par Lucie Moreau. Donc trois magnifiques voix de baryton pour trois propositions musicales, différentes certes, hein, Honegger, puis Stravinsky, puis Nadia Boulanger, et ce n'est pas la même musique, mais qui sont, comment dire, un peu dans la même lignée, dans la même interprétation du poème. Elles sont toutes les trois relativement denses, relativement intenses et bien sûr assez sombres. Alors après ces trois sommeils noirs qui nous ont plongés dans les affres de la dépression et de la mélancolie, je pense qu'on a besoin un peu de s'alléger l'âme et je vous propose pour cela d'en passer à la célèbre chanson d'automne. Alors là, c'est vraiment l'un des plus grands tubes de Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Alors évidemment, la grande difficulté, c'est ces sanglots longs des violons de l'automne. Comment incarner ces fameux violons sanglotants? Alors du côté de Léo Ferré, eh bien le choix, c'est un seul violon, un violon solo à la Grappelli qui va planer au-dessus de la mélodie, tandis que Britten et Trenet choisissent d'utiliser tous les violons de l'orchestre. C'est toujours une difficulté ça, hein, quand un texte parle de musique, comment est-ce qu'on le met en musique? Est-ce qu'on colle au texte ou est-ce qu'on s'en détache? Enfin, en tout cas, là, vous allez entendre trois possibilités, trois très belles possibilités. Il s'agit de trois versions avec orchestre. Ça sera la première fois qu'on va comparer de la chanson et de la mélodie. Et donc, nous allons écouter maintenant cette chanson d'automne dans les versions successives de Léo Ferré, Britten et Charles Trenet.
Sanglots longs des violons de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone. Et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Pareil les sangles longs des violons de l'automne. Blesse mon cœur d'une longueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte. De ci, de là, pareil à la feuille morte.
C'était la chanson d'automne de Paul Verlaine, tout d'abord entendue dans la version Léo Ferré, puis dans la version écrite en 1928 par Benjamin Britten, chantée par la soprano Jill Gomez et l'orchestre symphonique de Birmingham sous la direction de Sir Simon Rattle, et enfin la version de 1939 de Charles Trenet. Alors après ces quatre passionnantes et instructives comparaisons, je vous propose de terminer notre preuve par Z hebdomadaire par quatre vraies curiosités. Et pour commencer, j'ai pensé au compositeur Déodat Sévrac, dont j'aime tant la musique, qui était un grand ami de Debussy, que Debussy tenait en haute estime, et dont nous allons entendre la mélodie « Paysage triste » sur un texte extrait des poèmes saturniens. La tristesse mélancolique, saturnienne donc, prétexte d'une étonnante prière à la touchante simplicité. La mélancolie C'était la mélodie Paysage triste, une mélodie écrite en 1901 par Déodat Sévrac sur un poème de Verlaine, bien sûr, puisque nous consacrons au grand poète toute notre preuve par Z hebdomadaire. Ah, j'ai oublié de vous dire que c'était interprété par la soprano britannique Caroline Sampson, accompagnée au piano par Joseph Middleton. Alors, ma deuxième curiosité est assez amusante. Il s'agit de Sur l'herbe, l'un des seuls poèmes de Verlaine mis en musique par Ravel. Comme vous l'entendrez, l'abbé et le marquis ont manifestement un peu trop fêté le Beaujolais nouveau. L'abbé divague, et toi, marquis, tu mets de travers ta perruque. Domi seul assis, je voudrais être petit chien. Eh, bonsoir la lune. L'alcool est ici manifestement le prétexte d'un texte presque surréaliste.
L'abbé divague, et toi, marquis, tu mets de travers ta perruque. Ce vieux va de chiffre d'exquis, moins Camargo que votre nuque. Ma flamme, domi se classit, l'abbé. Ta noirceur se dévoile, que je meurs, mesdames, si je ne vous décroche une étoile. Je voudrais être petit chien, embrassons nos bergers une après l'autre, messieurs.
Nous écoutions Sur l'herbe, une mélodie de Maurice Ravel écrite en 1907 par notre chouchou baryton Gérard Souzet, accompagné au piano par Dalton Baldwin. Ma troisième curiosité sera une nouvelle chanson de Léo Ferré, avec toutes mes excuses pour les cordes reproduites au synthétiseur. C'est toujours un désastre, je sais, mais je ne voulais pas vous faire manquer la voix si rare de Christine Sèvre, chanteuse française née en 1931, première épouse de Jean Ferrat, morte en 1981 à l'âge de 50 ans. Le poème de Verlaine choisi par Christine Sèvre, « Âme, te souvient-il » fait allusion à la mort de Lucien Lettinois, un élève auquel Verlaine s'était attaché alors qu'il exerçait les fonctions de répétiteur en littérature, histoire, géographie et anglais à Notre-Dame de Rethel. Le fond du paradis auquel fait allusion le texte, c'est lorsqu'ils regagnaient tous deux Boulogne à pied depuis Auteuil, où Lucien avait accepté un emploi. Mais le 7 avril 1883, Lucien meurt à 23 ans de la fièvre typhoïde. Âme, te souvient-il au fond du paradis de la gare d'Auteuil et des trains de jadis, t'amenant chaque jour venu de la chapelle ?
Te souvient-il au fond du paradis de la gare d'Auteuil et des trains de jadis t'amenant chaque jour venu de la chapelle jadis déjà combien pourtant je me rappelle cet Auteuil, et sous les arbres pleins d'une jante musique, Notre entretien était souvent métaphysique. Oh, tes forts arguments, ta foi du charbonnier, non sans quelques tendances, oh, si franche à nier, mais si vite quittée au premier pas du doute. Et puis nous rentrions plus que lent par la route un peu des écoliers, chez moi, chez nous plutôt, y déjeuner de rien, fumailler vite et tôt, et dépêcher longtemps une vague besogne. Mon pauvre enfant, ta voix dans le bois de Boulogne.
Poème de Paul Verlaine, musique de Léo Ferré, c'était Christine Sèvres qui nous chantait « Âme, te souvient-il ». Et enfin, pour terminer, une musique que les auditeurs de France Inter connaissent bien puisqu'il s'agit du générique du Masque et la Plume, une émission qui existe tout de même depuis 1955, même si le générique actuel n'est pas apparu tout de suite. Alors pourquoi ce choix pour conclure une émission en hommage à Verlaine ? Eh bien, en écoutant cette célèbre fileuse, fileuse c'est le surnom de cette romance sans parole de Mendelssohn qu'a emprunté Jérôme Garcin et sa bande du dimanche soir, j'ai toujours imaginé que le petit Paul entendait cette musique dans le salon de Madame Verlaine mère. La fileuse, 1855, est en effet presque contemporaine de la naissance de Paul Verlaine en 1844. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai choisi une version sur pianoforte historique Pleyel de 1830. Un joli mouvement perpétuel de double croche qui ronronne, qui frissonne, qui bourdonne. C'était la célèbre fileuse de Félix Mendelssohn, et c'est sur cette évocation imaginaire d'un piano verlainien et le pianoforte de 1830 de Ronald Brautigam que nous terminons cette série de deux émissions consacrées à Paul Verlaine. Je vous retrouve ce soir à 22h15 sur France 5 pour une nouvelle clé de l'orchestre en compagnie de l'orchestre philharmonique de Radio France consacrée à la glorieuse symphonie Jupiter de Mozart. Et le samedi soir suivant, ce sera la rhapsodie espagnole de Maurice Ravel, toujours en compagnie bien sûr de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, toujours sur France 5, toujours vers 22h15. Voilà, après ce sera l'été, ces multiples festivals dans lesquels j'aurai le plaisir de me produire, comme par exemple le 22 juillet à Royan pour le festival Un violon sur le sable, en duo de piano avec mon camarade Frank Woeste, ou un peu plus tard le 4 août au Corrigis d'Orange, où j'aurai le plaisir de mettre en musique de mon piano l'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, le Faust de Murnau. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Dorian Seigre. Chef opérateur du son, Philippe Mercher. Bonnes vacances à tous!